Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Frappé encore une fois. Entrez. C'est sa sœur Apolline. Ah, c'est toi? Oui, je suis venue te voir pour savoir ce que tu deviens. Ça fait une semaine que je ne te vois plus. Il ouvre les épaules et lui dit. Rien, j'avais envie d'être seule. Elle lui dit. Tu aurais pu penser un peu à moi. Moi aussi je m'ennuie. Je m'ennuie. Si nous sommes obligés de quitter Biarritz à cause des événements, j'en serais très heureuse. Il sourit et lui dit, pour désennuyer Apolline, il faut que les Français et les Prussiens s'entretuent. Elle lui dit, oui mon cher, je veux une guerre si cela peut me redonner goût à la vie. Remarque, toi aussi tu serais très heureux si l'on pouvait quitter cet endroit. Il lui dit, peut-être pas. Peut-être pas quoi? Rien. Ce n'est pas pour les petites filles. Elle joue les épaules. Tu as rencontré quelqu'un? En tout cas, pas ce que tu penses. L'on vient de sonner pour le dîner. Il lui dit, il est temps de descendre.
Ils sortent de la chambre pour aller à la salle à manger.
Ce que vient de lui dire son frère intrigue Apolline. Elle décide de l'espionner. Jules et Jim continuent à aménager leur cabane. Ils ont fini leur deuxième pièce et la meublent avec de vieux meubles, une table, deux chaises, un confiturier qu'ils ont trouvé dans le débarras. Ils amènent tout ça sur une brouette. Jules est dans toute sa passion. Ne s'occupe pas de ce qui se passe dans sa famille. Jour et nuit, il ne pense qu'à la cabane et rêve d'y vivre avec Gilles. Toujours avec Gilles. Gilles est doux, calme. Il ne se parle presque pas. Une fois qu'ils ont travaillé une heure ou deux à aménager, ils se lancent devant la maison et Jules lui dit comment Robinson a aménagé sa maison. Gilles lui dit la nôtre sera mieux. Il est vrai qu'elle est bien aménagée à l'intérieur. Ils ont posé sur les murs des tapis, sur la table une lampe à pétrole, ont amené de la vaisselle, des livres. Il y a même un vase avec des fleurs. Ceci, c'est dans la grande pièce. L'autre, ils ont mis des matelas et des couvertures avec des coussins multicolores. Pauline suit Charles-André. Chaque fois qu'il sort et le suit en cachette. Elle le voit se promener pendant des heures seul. Puis, le soir, il tourne en rond autour d'une maison isolée au bord de la mer. Il s'approche de l'entrée et hésite, et s'en retourne plusieurs fois. Puis, revient. Puis, s'en retourne. Elle s'est cachée derrière un rocher pour le voir. Vient sur le chemin la femme, habillée de la même façon que la dernière fois. Apolline la voit. Elle la voit s'approcher de son frère. Il la suit et entre dans la maison. Elle reste un moment curieuse, troublée malgré elle, car elle ne sait pas de quoi. Puis, honteuse, elle s'en retourne. Dans la chambre, Charles-André prend sa première leçon de ce que l'on appelle faussement amour, et qui n'est qu'un acte physique entre deux personnes. Il est entre de bonnes mains. La vieille s'y connaît, peut-être même trop, ce qui la rend plus masculine que féminine, puisque c'est elle qui mène le jeu, comme si c'était elle le sexe. Il est vrai que dans ce corps-là, l'érotisme est du côté du garçon. Par son charme, sa beauté, sa grâce, tandis qu'elle, elle n'a que son expérience, et elle mène la danse à un homme. La sensibilité de la peau de cet adolescent de 15 ans lui donne un plaisir extrême qui va au-delà de la partenaire. C'est un peu comme si c'était une masturbation grandiose. Une fois qu'il est joui, il se sent épuisé et a envie de dormir. Malheureusement, elle lui a enlevé tout son plaisir en se blottissant contre lui. Il sent son odeur, voit sa peau qui n'est plus toute jeune, ses os, son visage ridé. Cela le dégoûte et lui donne envie de vomir. Il veut se dégager, mais elle le tient bien. Elle aime la chair fraîche, la garce. Il commence à en avoir marre. Il veut voir le jour diminuer et se dit que ce doit être tard. Il soupire. Elle s'en aperçoit. « Tu n'es pas bien. » Il se fait tard. « Mes parents. » Elle lui donne un baiser sur la poitrine et se lève. Nue debout, elle est encore plus laide. Elle va ouvrir l'armoire. Thank you.
Elle a pris un peignoir chinois noir et rouge.
Lui se lève pour s'habiller.
Il prend ses vêtements à terre et s'habille.
Tu ne te laves pas ? Pas le temps. Il reste debout et lui dit : Je dois partir. Oui, bien sûr.
Il se dirige vers la sortie de la pièce. Elle l'a suivi. Avant qu'il ouvre la porte, elle lui donne un baiser sur la joue. Il caresse ses cheveux.
Tu as été satisfait ?
Il ne répond pas. Elle ouvre la porte et lui met dans la main 2 pièces d'or. Merci, madame. Il se dit qu'il l'a bien mérité.
Tu reviendras me voir ?
Oui. Et il sort.
Il revoit la chose comme la première fois et cela l'excite. En rentrant chez ses parents, il va directement dans sa chambre.
Il vient tout juste d'entrer que l'on frappe à la porte. Entrez. C'est sa sœur.
Elle a refermé la porte derrière elle. Elle a un visage buté. Elle lui demande : Où étais-tu ?
Je me suis promené.
Tu es allé chez cette vieille ? Il rougit. Tu devrais avoir honte.
Mais ne cherche pas à mentir, je t'ai vu avec elle.
Il lui dit furieux : Et alors, ça ne te regarde pas ?
Si, parce que je ne veux pas que mon frère fréquente cette femme.
Je ne la connais même pas. Elle lui dit :
J'ai entendu ce que l'on dit, ce que disent les gens du pays sur elle. C'est une femme légère qui dévergonde les jeunes garçons.
Si les parents savaient que tu la fréquentes, ils partiraient, ils porteraient plainte à la police.
Tu ne vas pas le leur dire ?
Elle hausse les épaules et lui dit :
Bien sûr que non, je ne suis pas une rapporteuse.
Il lui dit :
Merci.
Et veut lui donner un baiser, elle se dégage.
« Je ne veux pas que tu m'embrasses après ce que tu as fait avec cette femme. » Il lui dit tristement.
« Mais je t'aime bien. »
Elle a les larmes aux yeux. La colère lui est venue malgré elle. Pourtant, au fond d'elle, une voix lui dit qu'elle n'a pas à s'occuper des affaires de son frère.
Et maintenant, il y a ses larmes.
Pourquoi ses larmes ?
Pourquoi ses larmes ?
Oui.
Pourquoi ses larmes ?
Il lui demande tristement et gêné : Pourquoi pleures-tu ?
Je ne sais pas. On dirait que je suis jalouse malgré moi. Je déteste cette femme qui t'a touché, que tu as touché.
C'est stupide, parce que tu es mon frère. Et depuis que je t'ai vu entrer dans cette maudite maison...
Elle pleure en tremblant. Il la prend dans ses bras. Elle se laisse faire.
Il a pitié d'elle. Elle se laisse aller. Lui lui donne un baiser et lui dit « Je t'aime. Tu n'as rien à craindre des autres femmes. Tu n'as rien à craindre des autres femmes. » En disant cela, en ayant sa sœur dans ses bras, si fragile, si belle, car il la trouve belle, malgré ses pleurs, son corps se fend, il se met à l'aimer malgré lui, tellement que c'est sûrement trop pour une sœur. Elle, dans ses bras, sent la douceur de son corps, son beau regard. Elle veut malgré elle fondre dans son frère.
Vers le lit. Et la fait s'allonger. Elle s'allonge doucement, avec calme. Et lui s'allonge à côté d'elle.
Côté de l'autre, sans bouger, en se regardant. Le lit est devenu une barque qui vogue sur une eau bleue et or. Elle va loin, loin de tout. Il reste ainsi un moment, le jour baisse dans la pièce. Frappé à la porte, ça les a fait sursauter. Il demande « Oui ?»«
Monsieur, il est l'heure de dîner. »«
Bien, je descends. » Il faut se lever. Il se penche vers sa sœur et lui dit « Tu viens ?» Il lui donne un baiser. Elle lui dit « Tu ne verras plus cette femme ?»«
Non, je te le promets. »
Se lèvent tous deux et sortent de la chambre.
Charles-André se demande ce qui lui arrive. Durant le repas et la soirée qu'il passe au salon avec la famille, il ne fait que regarder sa sœur. Il la trouve belle et délicieuse. Dans la nuit, ses rêves mélangent son expérience qu'il a connue avec la femme et le sentiment qu'il a pour sa sœur. En se réveillant, ceci le trouble. N'altère pas ses sentiments pour sa sœur, mais même excite le désir grâce aux rêves. Malgré tout, il ne sait que faire et aimerait rester au lit, car il aimerait rester auprès de sa sœur et être en même temps retrouver le plaisir que lui a donné la femme, le souvenir du plaisir et si intense qu'il lui faut oublier la laideur de celle qu'il lui a donnée. Il est vrai qu'à 15 ans, le désir est si fort qu'il ne peut se dominer et que l'on est prêt à beaucoup de folie pour l'assouvir. Heureusement qu'à cet âge, on est plus ou moins timide, ce qui ralentit les élans. Donc Charles-André est troublé et se lève anxieux. quelle que soit sa décision, elle ne sera pas entièrement satisfaisante. Si ma sœur n'était pas ma sœur, ce serait l'idéal.
Sortant de sa chambre, il décide de rester seul pour réfléchir à tout ça.
Passe la journée seul sur la plage, l'esprit troublé, envie de revoir sa sœur, et en même temps il a le désir. Pauline de son côté le cherche, son corps gonfle d'envie de revoir ce grand frère qui est déjà un jeune homme, beau garçon et si gentil. Elle court heureuse pour le revoir. Elle est tellement prise par cet amour qu'elle ne voit pas qu'il est à bout. Enfin, elle le voit assis et contemple la mer sur un rocher au bord de la plage. Elle s'approche. Lui ne la voit pas venir, plein de ses pensées pour elle. Enfin, il la voit. Elle est tout près de lui, lui sourit. Elle baigne dans la lumière et lui demande « Que fais-tu là ?» Il lui répond « Rien, je crois que je t'attendais. Comment cela ? Eh bien, je ne sais pas, j'avais l'impression que tu viendrais. » Il se lève, lui prend la main et marche lentement sur la plage. Elle lui dit « Moi aussi, je t'ai cherché. » J'avais envie de te voir. Je t'ai connu comme une immense joie qui me menait à toi. Il lui dit, depuis hier, je pense à toi sans arrêt. Elle lui dit, moi aussi. Puis, lui demande, est-ce frère et sœur que de penser constamment l'un à l'autre? Il lui répond, je ne sais pas, mais nous ne le dirons à personne. Et ils continuent leur marche, main dans la main. Le 19 juillet, les adultes sont anxieux. Ils attendent un événement grave. Constantin de Bonnardin, de son retour de voyage à Paris, a réuni sa famille au salon. C'est l'après-midi. Il reste debout alors que les autres sont assis. Il leur dit « La France vient de déclarer la guerre à la Prusse. Je l'ai appris juste avant de partir. » Sa femme inquiète lui demande « Qu'allons-nous faire ? » ?»« Je ne sais pas. Attendre. Pour le moment, vous restez ici. Vous êtes plus en sécurité qu'à Lyon ou Paris. On ne sait jamais avec cette hésité de républicains. C'est eux qui ont voulu la guerre. Paris est en pleine ébullition. C'est presque une révolution. Je plains l'empereur. J'irai aux nouvelles à Paris et à Lyon. Quant à vous, je vous demande c'est de rester ici tranquillement. » Charles Anguiré est triste et inquiet. Il regarde sa sœur, qui regarde son père. Elle demande à son père, « Tu vas partir à la guerre, papa ?»«
Je ne le pense pas, ma petite chérie. En tout cas, pas pour le moment. »
Jules n'a pas envie de quitter Biarritz. Il veut continuer à jouer les Robinsons. Déjà, son imagination est en ébullition. Il se voit dans un monde en ruine, seul avec son ami. Ceci l'attriste et le met en joie. Être seul, sans personne d'autre qu'eux, même la mort de ses parents ne le gênerait pas. Bien au contraire, cela donnerait un côté plus romanesque à la chose. D'ailleurs, les orphelins dans les romans sont ceux à qui il leur arrive le plus d'aventures, parce qu'ils n'ont personne pour les retenir et leur interdire quoi que ce soit. Inconsciemment, ils pensent à tout cela. Après cette triste nouvelle où l'on s'est embrassé, où l'on a embrassé le père, chacun va réfléchir à cet événement. Jules et Gilles ont décidé d'un conseil de guerre qu'ils font dans leur cabane et prennent la décision de renforcer leur maison et de l'entourer de palissades. Gilles lui dit « Il faudrait pas oublier de faire des provisions. Oui, tu as raison. Maintenant, nous allons faire tout de suite la palissade. Allez, mettons-nous au travail. » Ils vont chercher des planches qu'ils volent à un menuisier qui se trouve en dehors de la ville et Gilles prend des clous à son père. Charles-André est assis sur la plage à côté de sa sœur. Il lui dit « Moi, la guerre, j'en ai rien à faire. » Et lui demande « Qu'allons-nous devenir ? » ?»« Tant que la guerre durera, nous n'irons pas à l'école et resterons ici. » »« Mais si elle risque de durer des années ?» C'est pareil, elle lui dit « Moi, je ne veux pas rester des années ici. » Tu veux retourner en ville. Il lui dit, des villes, il n'y en aura peut-être plus. Les canons sont si puissants maintenant qu'ils peuvent tout détruire. Elle lui dit, alors que deviendrons-nous? Rien, nous attendrons, à moins qu'ils nous tuent aussi. Mais ne crains rien, nous serons toujours ensemble. Il lui embrasse la joue. Et puis, s'ils viennent, nous partirons tous les deux. Elle lui dit, partons tout de suite alors. Il hausse ses épaules. Pour partir, il faut de l'argent. Elle lui dit, prenons-en à nos parents. Ils sont vieux, ils n'en ont plus besoin. Et puis, je vendrai tous mes bijoux. Il lui dit sans réfléchir, moi aussi j'ai une montre. Elle hausse ses épaules et lui dit, ta montre de première communion, elle ne vaut pas grand-chose. Il sort de sa poche celle de la femme que la femme lui a donnée. Celle-là, oui. Elle lui demande, qui t'a donné cette montre? Il rougit et n'ose pas lui mentir. Une dame. Elle lui demande, la dame de la maison sur la plage? Il lui dit, oui. Pourquoi t'a-t-elle donné cette montre? Parce qu'elle m'aime bien. La Pauline fait la grimace. Il lui dit, tu veux pas être jalouse, une vieille? Elle lui dit, non, mais... Pourquoi t'est-elle attachée comme ça? Parce qu'elle aime bien les jeunes gens. Mais je te promets que c'est fini. D'ailleurs, cette montre, je n'en veux plus. Et il la jette à la mer. Pauline, surprise, lui dit, mais qu'as-tu fait? Elle est chère, cette montre. Et nous avons besoin d'argent. Qu'allons-nous faire maintenant? Il lui dit en riant. Ne t'en fais pas, elle en a encore plus. et m'a dit qu'elle m'en ferait cadeau d'autres. Son mari les fabrique. Pauline est furieuse, lui crie. Je te déteste. Je ne veux plus que tu la revoies. Il est surpris. Si tu ne veux pas que je la revoie, comment ferais-je pour qu'elle me donne de la d'autres montres? Elle lève ses épaules et lui dit. Nous n'avons pas besoin de ces montres. Je ne veux pas que tu restes avec... que tu ailles avec elle. Je veux que tu sois tout le temps avec moi et que tu ne la vois plus. Il lui dit. Nous serons séparés si nous n'avons pas d'argent. Il soupire et lui vient une idée. Elle vit pratiquement toujours seule et la maison est isolée. Il est facile d'entrer chez elle et de lui voler quelques montres. Il y en a tellement qu'elle ne s'apercevra même pas. Pauline lui dit. Oui, tu as raison. Cela nous permettra de nous venger de cette vieille bique qui a pensé qu'à déboucher les jeunes gens. Il est surpris par le côté mûr de cette pensée qui ne sont pas de son âge. Mais qui t'a appris toutes ces choses? Elle lui dit, en cachette j'ai lu du Zola, et je me suis beaucoup de plus de choses que tu me crois. En réalité, elle sait beaucoup de choses, mais ces choses qu'elle sait, elle les oublie et s'en souvient de temps en temps. Cela ne nuit en aucun cas la fraîcheur de son caractère. Il décide de surveiller les allées et venues de la femme. Chaque après-midi, ils s'assoivent sur un rocher qui plonge vers la maison de la femme. Là, ils suivent les allées et venues des gens de la maison. Apolline lui demande « Si nous devions partir, nous irions où ?» Charles-André, après avoir réfléchi, lui dit « Nous prendrons le bateau pour aller en Espagne ou au Portugal. » Apolline lui dit « J'aimerais mieux le Portugal, c'est plus loin. Et puis là-bas, nous vivrions dans une maison de pêcheurs. Tu pêcheras et moi j'écrirai une autre histoire pour plus tard. » Il lui dit en s'allongeant sur le sable. « Il nous faudra beaucoup d'argent pour acheter la maison et le bateau pour la pêche. » Suivant les allées et venues de la maison, ils se sont aperçus que les domestiques la quittaient à 19h, sûrement pour laisser le champ libre au mamour de madame, et qu'elle sortait pendant 1 heure. Donc, entre 19h et 20h, la maison est libre. Apolline lui demande « Comment ferons-nous pour entrer dans la maison ?»« Nous allons faire le tour de la maison, et peut-être que nous trouverons une fenêtre. » Ils vont vers la maison et en font le tour. Les portes sont fermées, les fenêtres aussi, mais pas de volets. Apolline lui dit « Nous pourrons rentrer nulle part, à part en cassant une vitre, et cela risque de faire du bruit et de se voir. » Jean-Landré lui dit « Oui, ça paraît impossible. Il faudrait avoir la clé. » Elle soupire et lui dit « Et comment ?» Il s'éloigne de la maison et retourne s'asseoir sur le rocher et lui dit « Je vais retourner chez elle et lui voler sa clé. »« Oh non, tu ne vas pas la revoir, juste pour la clé, pour nous deux. »« Et comment va-t-on faire pour lui prendre cette clé ? Vas-tu faire pour lui prendre cette clé ?»« Je ne sais pas, je verrai. Laisse-moi faire. Ce sera notre bataille à nous. Prendre le trésor qui se trouve dans la maison. » Le lendemain après-midi, vers les 19h, Charles André se promène seul vers la maison. La femme sort de chez elle et marche d'un pas calme. Elle est toute dans ses pensées lorsque tout à coup, elle voit ce beau jeune homme. Elle sourit et va vers lui.
« Bonjour, vous voulez me voir ?»
Il lui dit. « Oui, je me demandais ce que vous deveniez. »
C'est gentil, ça. Je vais très bien. Que tu es mignon. On prend un thé chez moi?
Oui.
Ouh, tu as l'air d'être pressé, dis donc. Viens.
Et elle le mène chez elle. Après avoir fermé la porte, elle remet les clés dans son sac et le sac dans la commode du couloir. Puis, elle quitte son chapeau et ses gants, lui sourit, lui enlève sa veste qui est tombée à terre, défait sa cravate, le décoiffe. Il lui donne un long baiser sur les lèvres, puis il tire les cheveux en arrière.
« Mon chat !»
Et elle lui défait le pantalon. Il tombe sur les chaussures, puis c'est au tour du caleçon. Le sexe est raide. Elle le regarde avec satisfaction.
« Tu en as sûrement besoin. »
Elle se penche et le suce. De plaisir, il penche la tête en arrière et ferme les yeux. Mais elle ne le fait pas jouir. Elle se redresse et lui dit
« Allons dans ma chambre, mon poussin. »
Il se penche pour enlever entièrement son pantalon et son caleçon. Dans la chambre, elle se met nue pour s'allonger sur le lit. Il finit de se déshabiller pour aller près d'elle. Dans l'excitation, le plaisir, il en oublie comme la première fois la laideur de la femme. Puis, une fois qu'il est joui, repris ses forces, ils se sont levés. Radio Canu vous a présenté dans la série d'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la troisième partie. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.
La CVRP, Cinéma Vidéo Radio Production, vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.